étude des subtilités de l'idolâtrie. Bien que tout n'ait pas été absolument dit et que tout ne sera pas dit, le sujet n'a pas été, bien entendu, pleinement épuisé. Qui pourrait prétendre, d'ailleurs, épuiser un tel sujet? Nous aurons fait tout de même un certain tour au milieu de tout ce qui peut constituer l'idolâtrie et représenter devant nous le danger d'idolâtrie. Le danger d'idolâtrie. Nous avons vu hier les idoles du cœur, cette idolâtrie qui consiste en un attachement profond et persistant à certaines convoitises. Je voudrais vous parler, avant d'arriver à une des exemples d'idolâtrie dans l'Église, parce que on s'imagine souvent que l'idolâtrie, on en est séparé quand on a abandonné les statues, on a abandonné toutes sortes d'objets de piété comme les chapelets ou tout cela, n'est-ce pas, les médailles, et on se dit, ça y est, maintenant j'ai fini, je suis quitte de cela. C'est une erreur, n'est-ce pas? Et bien sûr, et dans l'Église, des dangers d'idolâtrie sont là, auxquels il faut certainement penser pour s'en prémunir. Mais avant, je voudrais vous parler de la désobéissance obstinée ou volontaire qui constitue, elle, une sorte d'idolâtrie. C'est une idolâtrie. Parce que nous avons défini l'idolâtrie, n'est-ce pas, comme tout ce qui est représentation qui nous sépare de Dieu, nous éloigne de Dieu, qui prend la place de Dieu, se substitue à Dieu. C'est ça, n'est-ce pas, l'idole. C'est une chose qui se substitue à Dieu, quelle qu'elle soit, et qui nous voile la personne de Dieu. Lisons dans 1 Samuel 15, 23. « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Ceci est dit par le prophète Samuel au roi Saül, qui n'a pas obéi, et qui s'est complu dans une semi-obéissance, qui est considérée comme une désobéissance. Et vous voyez ce que dit ici, n'est-ce pas, le prophète de la part de Dieu, et cela est en accord, bien sûr, avec toute la Bible, la désobéissance aux yeux de Dieu, naturellement, est coupable comme la divination. Or, on sait que la divination, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'art des devins, des magiciens, des astrologues, ça, on sait que tout cela, évidemment, est en horreur à Dieu. Je ne l'ai pas traité dans notre sujet. Ce serait peut-être une branche à part, si je voulais, de cette grande question de l'idolâtrie. Mais j'ai voulu rester sur l'idolâtrie plus directement caractérisée. Eh bien, la divination, donc, est grave. Et la désobéissance est aussi grave. Et la résistance, c'est ce qu'avait fait Saül. Il s'était permis de ne pas accomplir totalement, pleinement, la parole de Dieu. Il avait accompli en partie, mais en partie seulement. Il avait donc résisté à l'ordre qui lui avait été donné. Hein? Alors, la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Les théraphimes, nous l'avons dit, c'était ces petites statues généralement longues, portatives, statues des ménages, du foyer, n'est-ce pas, que l'on portait même dans sa valise. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme Dieu. Vous voyez, c'est un rejet donc catégorique. C'est une désobéissance ici, n'est-ce pas, qui a été volontaire. Ce n'est pas par une inclination fatale, naturelle, pour ainsi dire, de sa nature, n'est-ce pas, que le roi est arrivé à cela. Ce n'est pas parce qu'il a été faible, il a manqué de foi, n'est-ce pas, et il s'est laissé prendre. Non, ce n'est pas cela. Délibérément, il a dit, mais non, oh, ben, je m'arrête là, ça suffit comme ça. Moi, je prends la décision que, n'est-ce pas. Vous voyez, il prend à la place de Dieu une décision contraire à celle de Dieu. Nous avons un passage aussi dans les Hébreux qui alors est redoutable. Il ne faut pas bien entendu, s'en effrayer inutilement. Mais disons qu'il est très sérieux, ce passage, chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, ce qui veut dire exactement, n'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes, littéralement. Je dis toujours, n'est-ce pas, la traduction littérale, parce que il y a toujours toutes sortes de questions qui se posent au sujet de ce verset. N'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'un chrétien doit toujours être dans un rassemblement. Dans un rassemblement. Il faut toujours qu'il soit rassemblé avec des frères. N'abandonnons pas le rassemblement. Autrement dit, n'allons pas, n'est-ce pas, mener notre vie chrétienne tout seul, isolément. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, et bien notez ça, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution » et encore « Le Seigneur jugera son peuple, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Il s'agit là, n'est-ce pas, d'un péché volontaire ou si, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, obstiné ou délibéré. Un péché délibéré. Le péché en général, n'est-ce pas, est une chose que l'on peut classer dans les actes involontaires, je parle du péché du chrétien, hein, dans les actes involontaires, parce que c'est sa faiblesse, mais volontairement, il ne voudrait pas. S'il en avait la foi, avait la foi suffisante, s'il entretenait une piété suffisante, n'est-ce pas, s'il était vigilant, évidemment, il éviterait cela. Il éviterait. Mais il y a certains relâchements, hélas, et il y a aussi certaines faiblesses momentanées ou faiblesses de la foi, n'est-ce pas? Et alors là, le péché n'est plus vu, et il revient, il réapparaît, n'est-ce pas? Et puis il y a la séduction, il y a les convoitises qui actionnent le pécheur, comme cela nous est dit dans le Nouveau Testament. La convoitise produit son effet, et alors le péché est consommé. Mais ça, c'est encore le péché involontaire, qui est, si vous voulez, le fruit d'une séduction ou d'une action de convoitise, d'une tentation contre laquelle le chrétien n'a pas été armé comme il l'aurait dû. Hein? Voilà donc ce qu'est en général le péché. Mais si c'est un péché volontaire, si je dis par exemple, eh bien non, maintenant ne fais plus ceci, je ne veux plus, je ne veux pas, ce n'est pas que je ne pourrais pas, ce n'est pas que en moi il y a quelque chose qui me pousse à le faire, non, délibérément je dis je ne veux plus, je ne veux pas faire ceci, je ne veux pas faire cela. Ah, attention, chers amis, alors là, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Vous avez outrepassé la grâce. Enfin, la grâce est immense, la grâce abonde, mais attention, vous êtes sorti de son domaine. Et c'est le péché contre le Saint-Esprit. De résister volontairement à Dieu, de lutter contre Dieu, n'est-ce pas? Ça, c'est une chose, évidemment, vous le voyez, grave. Et il fallait bien le signaler dans ce chapitre que nous avons ouvert sur l'idolâtrie, puisque, en somme, n'est-ce pas, là, nous avons vu que la désobéissance était vue comme divination, ou comme l'idolâtrie, ou comme les théraphimes. Par conséquent, n'est-ce pas, ça, c'est véritablement abandonner Dieu pour une position qui n'est pas celle de Dieu, n'est-ce pas, délibérément choisir une autre position, prendre une autre position, c'est donc abandonner Dieu délibérément. Et nous pouvons dire aussi que l'idolâtrie provient bien entendu toujours d'une séduction. J'ai un peu esquissé ce sujet hier, nous avons vu l'action de la convoitise, mais prenons quelques passages aussi pour voir rapidement ça, l'idolâtrie provenant d'une séduction. Éphésiens chapitre 4 et verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Attention, nous savons que les hommes en général, il ne s'agit pas des hommes du monde particulièrement ici, bien sûr ils y sont, il s'agit de tous les hommes, puisque nous savons que dans le milieu de l'Église peuvent s'élever des antichrists, des faux prophètes, n'est-ce pas? Ça c'est écrit, c'est dit, et je n'en retirerai pas ça. Hein? Parce que nous avons à être avertis dans l'Église elle-même, de l'Église, des rangs de l'Église, peuvent s'élever des faux prophètes, des loups ravisseurs, des faux docteurs et des séducteurs, des antichrists du milieu de vous. C'est dit par plusieurs passages de l'Écriture. Alors, par conséquent, la tromperie des hommes, de tous les hommes. Bien sûr, je ne vais pas pour cela, n'est-ce pas, me méfier de mon frère et de ma sœur que je connais, n'est-ce pas, et que j'aime et que je vois bien marcher, n'est-ce pas. Bon, mais attention, rappelons-nous ce que nous a dit Deutéronome 13, si tu vois dans ta propre famille, ton frère, ton père, ton fils, ta fille, ta femme, ou ton ami le plus cher, n'est-ce pas, venir te parler d'aller vers les faux dieux, alors vous avez vu la rigueur, n'est-ce pas, la rigueur. Par conséquent, il y a là, évidemment, quelque chose qu'il faut savoir. Ce n'est pas qu'il faut en faire une montagne, mais il faut savoir, n'est-ce pas, que l'on peut être flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Alors, n'acceptez pas tout ce que vous lisez, n'acceptez pas tout ce que l'on vous dit, acceptez de ceux, d'abord, soyez vous-même, n'est-ce pas, des gens de la Bible, soyez comme les Béréens qui vérifiaient dans la Bible tout ce qu'on leur disait, pas, ils y réfléchissaient. Et soyez donc, n'est-ce pas, attentifs, quand quelqu'un vous parle, il doit avoir l'esprit, il doit parler par l'esprit de Dieu. Mais vous aussi, vous avez l'esprit, vous qui écoutez. Ceux qui écoutent doivent avoir l'esprit aussi, l'esprit de Dieu. Et par conséquent, ça, l'apôtre Paul dit, examinez toutes choses, jugez de tout et retenez ce qui est bon. Mais il faut recevoir d'hommes dont on voit les fruits. Il n'y a pas à tergiverser avec cela. C'est une consigne sérieuse et que personne ne peut dénier. Il faut, pour entendre la parole de quelqu'un, voir ses fruits, le voir vivre, vivre à côté de lui, savoir comment il vit. Un monsieur de passage, il peut être recommandé à l'Église. Ah, ça existe aussi. Une recommandation qui est faite à l'Église, il est connu, n'est-ce pas, il vient dans l'Église, bon, c'est très bien. Mais attention, n'est-ce pas, si c'est un homme que l'on ne connaît pas bien dans l'Église, n'est-ce pas, eh bien... Un homme que l'on ne connaît pas bien, un homme dont on ne sait pas, on ne sait rien de sa vie, n'est-ce pas? Eh bien, on ne devrait pas l'écouter. On ne devrait pas lui donner la parole. Il reconnaissait-les à leurs fruits. Tous ceux qui doivent parler dans l'Église sont des gens dont la vie doit être connue, dont les fruits doivent être connus. Si quelqu'un, on ne connaît pas ses fruits, il peut en avoir d'excellents, de bons. Mais il faut attendre qu'on puisse connaître ses fruits. On n'écoute pas le premier venu, n'importe qui, une personne qu'on ne connaît pas. Malheureusement, quelquefois, nous jugeons aux paroles. Oh, il a bien parlé. Oh, il a dit des choses formidables, magnifiques. Alors, nous ignorons ça, qu'il y a, n'est-ce pas, de la ruse, et qu'il y a de l'habileté, de la séduction, n'est-ce pas, qu'il y a une tromperie qui sait séduire. Et alors, nous risquons d'être emportés à tout vent de doctrine. Ça, c'est excessivement sérieux. Au chapitre 5 et au verset 6, nous avons que personne ne vous séduise par de fins discours, que personne ne vous séduise par de vains discours. Vous savez, on a l'habitude, n'est-ce pas? On dit, nous prenons toute la parole de Dieu. Puis ces choses que je suis en train de vous relire maintenant, on n'y prend pas beaucoup garde. On n'y fait pas beaucoup attention, n'est-ce pas? Et c'est écrit pour nous. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est à cause de cela. Alors aujourd'hui, vous pensez si la colère de Dieu a de quoi s'alimenter sur les fils de la rébellion, c'est-à-dire sur le monde en général, n'est-ce pas? Parce que c'est à cause des gens qui séduisent par de vains discours. Alors ça, mes amis, nous en avons. Ah, on n'a qu'à écouter, par exemple, France Culture, n'est-ce pas? Tous les jours, il y a des philosophes, tant qu'on en veut, et des philosophies les plus étranges. Je vous assure, quelquefois, c'est un peu presque amusant d'écouter ces gens-là, n'est-ce pas? Parce que quand ils ont dialogué pendant 10 minutes ensemble, ils sont souvent revenus au point de départ, ou alors on ne sait plus du tout où on en est, on ne sait plus ce qu'ils ont dit. Ça, c'est véritablement, n'est-ce pas? Leur parole, c'est du vent. Seulement, malheureusement, il y en a beaucoup qui séduisent. Qui séduisent. Ça, c'est quelque chose de terrible. Nous allons tout de suite maintenant aller dans l'Apocalypse et retrouver là les lettres aux sept églises. Pas toutes, mais quelques passages de certaines. D'abord Apocalypse 2, verset 4. C'est ici la première lettre qui est adressée à l'église d'Éphèse. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, reprends-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. » Ce que je veux prendre de ce texte, c'est cela, l'œuvre des Nicolaïtes. Les œuvres des Nicolaïtes qui venaient là, n'est-ce pas, comme avec une force de séduction dans les églises. Là, n'est-ce pas, l'église d'Éphèse semble s'être très bien comportée à l'égard de ces œuvres-là. En effet, au verset 2, « Je sais que tu ne peux supporter les méchants, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. » Vous voyez, il y avait des gens donc qui mentaient, qui se disaient apôtres et qui ne l'étaient pas. Vous vous rendez compte? Et ils se disaient, c'est-à-dire, ils se reposaient, eux, en tant que ministère d'apôtres, n'est-ce pas? Ils disaient qu'ils avaient un ministère et qu'il fallait les écouter en tant qu'apôtres, et puis qu'ils ne l'étaient pas, et qu'ils étaient menteurs. Et c'est le Seigneur qui dit cela. Au milieu de l'Église. Seulement, l'Église avait bien réagi, là. Elle avait bien réagi. Elle avait très bien réagi aussi à l'égard des Nicolaïtes, mais ces Nicolaïtes, cependant, n'est-ce pas, ils étaient là et ils enserraient les églises, essayant bien sûr de les prendre dans leur glu. Les Nicolaïtes, c'était une hérésie qu'on appelle quelquefois gnostique, c'est-à-dire une hérésie qui avait, mettons, bien sûr, sa doctrine et qui faisait état d'une connaissance plus haute que celle qui était généralement répandue dans l'Église. Ça, c'est souvent comme ça, il faut se méfier de ces choses-là. Oh, vous êtes des gens, on vous a toujours enseigné ça, bien sûr, vous avez une excuse. On a toujours enseigné des choses comme ça, vous croyez des choses comme ça. Mais, mes chers amis, attendez, laissez-moi prendre la Bible, laissez-moi vous l'expliquer, vous allez voir ce que vous allez voir, n'est-ce pas? Je vais, moi, tirer un suc de cela, n'est-ce pas? Je vais tirer des notions que vous n'avez jamais abordées, etc. Puis on vous transforme tout, on vous déforme tout. Et les Nicolaïtes avaient fait ainsi, ils en étaient arrivés à une fausse spiritualité, à une superstition, fausse spiritualité, superstition et liberté charnelle proposée dans l'Église. Sous prétexte que quand on était avec l'esprit, n'est-ce pas, bah, peu importait ce que ce corps secondaire pouvait faire, n'est-ce pas, on était dans les régions de l'esprit. Voilà, une spiritualité très haute, n'est-ce pas, qui couvrait un tas de péchés, une véritable vermine dans la vie, n'est-ce pas, mais ça ne faisait rien, cette vermine, c'était la cave, si vous voulez, n'est-ce pas. Alors dans la cave, il y a des souris et des rats, ça ne fait rien, n'est-ce pas, pourvu qu'il y ait les beaux appartements au-dessus, qu'il y ait les beaux salons dorés et illuminés. Et puis il y avait la séduction de Balaam, que nous voyons en chapitre 2, verset 14. C'est dans la troisième lettre, celle à l'église de Pergame. « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. » De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Vous voyez, dans cette église, il y avait déjà, les Nicolaïtes avaient fait déjà des victimes. Il y avait des victimes, vous voyez, dans cette église-là. Et c'était une église primitive. Tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Mais je voudrais maintenant vous parler de Balaam. La séduction de Balaam. Balaam, c'était un homme qui habitait à Pétor, et cela nous est indiqué dans le livre des Nombres. Je ne veux pas aller chercher son histoire, qui occupe plusieurs chapitres du livre des Nombres. Il habitait à Pétor, c'était un pays, une ville, située sur l'Euphrate, en Mésopotamie. Et c'était à 20 jours de distance, à peu près, de marche, à 20 jours de marche, du Jourdain. Et là était le centre des religions mystiques de la Babylonie. C'était le Lourdes de la Babylonie, ou mieux le Lourdes, le Rome peut-être de la Babylonie. Disons tout de suite que Balaam... Le nom de Balaam signifie « celui qui dévore ». Vous voyez, nous sommes déjà devant un homme qui est un peu situé par son nom. « Celui qui dévore ». Et voici que le peuple d'Israël remontait à l'est du Jourdain.
Nous avons ici une interruption de l'enregistrement due à une coupure de courant au cours de laquelle nous sommes ramenés au livre des Nombres, chapitre 22, verset 5, montrant comment Balak voulait faire succomber le peuple d'Israël en s'adressant à Balaam.
Alors il envoie une délégation à Balaam pour lui demander de venir maudire le peuple d'Israël. Il croyait que à cette malédiction que le devin, car c'était un devin, pouvait prononcer sur le peuple. Balak, lui, a un nom dont la signification n'est guère plus avantageuse que Balaam, parce que ça signifie « il ravage ». Il ravage. Alors, voyez quel... Et puis, alors, il était fils, comme dit le livre des Nombres, Balak, roi de Madian, fils de Tsippor, et Tsippor voulait dire « oiseau ». Alors, il ravage, n'est-ce pas ? Il était fils de celui qui s'appelait Oiseau, oiseau de proie, il ravage. C'est curieux comme les noms, n'est-ce pas, dans la Bible ont un sens, et le sens correspond au caractère, et on peut dire à la conduite des gens. Ce que je vous signale en passant, c'est que Nicolaïte qui venait de Nicolas, Nicolas a en grec la même signification que Balaam en hébreu, c'est-à-dire il dévore, enfin dévore. Il dévore. Alors, ce Nicolas a été lui aussi quelqu'un qui dévorait les enfants de Dieu. Alors, Balak envoie donc une expédition à Balaam qui veut consulter l'Éternel. Il veut consulter. C'est une chose assez curieuse et on s'est souvent mépris. On a cru que Balaam était un prophète. Hein? Un prophète de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il ferait là-bas sur l'Euphrate, hein, dans la région à peu près d'où était parti de Charan, où était parti Abraham, n'est-ce pas, et où était la famille d'Abraham. Qu'est-ce qu'il ferait là-bas? C'est pas là que les prophètes ont à se situer, n'est-ce pas? Il est possible qu'il ait eu une certaine parenté avec le peuple d'Israël, mais cette parenté, il pouvait être de Sem, n'est-ce pas, de la tribu de Sem, mais c'était par Lot. Ça ne pouvait être que par Lot qu'il avait cette parenté. Et il n'était pas du tout prophète, comme certains l'ont dit, n'est-ce pas, c'est une grossière erreur que de prétendre que Balaam était un prophète. Il n'avait aucune place. D'ailleurs, c'est le peuple d'Israël qui va le tuer par l'épée, n'est-ce pas, et cela par un mouvement de l'esprit. Par conséquent, vous voyez qu'il ne s'agit pas d'un prophète d'Israël. Il consent donc à servir le roi Balak contre, évidemment, de l'argent, par intérêt, et il veut consulter l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, dont il s'agit de maudire le peuple. Il veut le consulter. Cela, évidemment, étonne beaucoup, n'est-ce pas? Tous ceux qui lisent ces passages en sont étonnés. Mais nous pouvons dire de Balaam qu'il emploie des moyens qui ne sont pas ceux des vrais prophètes. Il emploie, par exemple, des incantations, ce qui le distingue, alors là, d'une façon très nette, des prophètes d'Israël. Et puis, il travaille pour un salaire. Il ne porte non pas le nom, d'ailleurs, de prophète, c'est-à-dire de Nabi, ou celui de Chosé, Nabi qui veut dire prophète, Chosé qui veut dire voyant, mais il porte celui de Kozem, qui veut dire devin. Dans Josué, au chapitre 13, il est appelé le Kozem, c'est-à-dire le devin. Et chez les Chaldéens, l'on pratiquait couramment et de façon généralisée la magie et tous ces artifices occultes. On consultait les dieux par toutes sortes de moyens et à tout propos, et les moyens par lesquels on consultait les dieux étaient des moyens tout à fait idolâtres, bien sûr, les moyens de l'idolâtrie, c'était des moyens superstitieux, tous superstitieux. Je vais vous dire ce que veut dire d'ailleurs superstition. On avait donc recours au ministère des devins et des astrologues. On leur attribuait un pouvoir personnel. Vous voyez, n'est-ce pas, où l'Église catholique est allée chercher le pouvoir personnel des prêtres dans les mains, dans toutes sortes de rites, n'est-ce pas, où elle est allée chercher ce pouvoir personnel. Un pouvoir personnel, n'oublions pas, quand un prêtre est ordonné, n'est-ce pas, l'évêque bénit ses mains, et à partir de ce moment-là, ses mains disposent d'un pouvoir. Où ils sont allés chercher ça? Ils sont allés chercher quantité de choses dans l'Ancien Testament, bien entendu qu'ils ont arrangé à leur manière, ça au cours des siècles, bien entendu, mais alors, n'est-ce pas, cette provenance babylonienne du pouvoir personnel est très caractéristique. Donc, on attribuait à ces devins un pouvoir personnel. C'est pourquoi Balak va chercher Balaam en lui disant, viens maudire, si tu viens maudire, il est certain que ce peuple va être détruit. On peut dire que, d'ailleurs, tous ces devins et ces astrologues, comme Balaam, étaient en quelque sorte des sorciers. Ce serait en Afrique, on les appellerait des sorciers. Et l'on se représentait l'Éternel, le Dieu des Israélites, comme on l'appelait, le Dieu des Israélites. Le Dieu, on savait que l'Éternel, c'était le Dieu des Israélites. Et on se le représentait comme les autres dieux. C'est-à-dire comme un dieu qui, changeant, avec lequel on pouvait au besoin composer et s'entendre. Et vous voyez que ce que fait Balaam en consultant l'Éternel, c'est ça, il veut composer, il veut s'entendre. On cherchait de s'entendre. Bon, Balak me demande ça. Bon, ah ben oui, mais attention, il s'agit d'Israël. Bon, ben alors on va consulter son Dieu à lui, le Dieu d'Israël. On va essayer de s'entendre avec lui. Peut-être on va trouver, n'est-ce pas, le moyen de s'entendre. Voyez-vous, c'était dans cet esprit-là, c'est-à-dire un esprit abominable. On entendait se servir de Dieu, oh, le cas échéant, comme on se servait des autres dieux, on entendait se servir de l'Éternel Dieu, mais non pas le servir. Et c'est ça, n'est-ce pas, qu'il faut voir. Quand suis aperçu qu'à certains moments, on faisait de Balaam un véritable prophète et qu'on le mettait au rang de prophète. Moi, je ne sais pas, ça m'épouvante, ces choses-là, n'est-ce pas? Parce que c'est très net. Vous voyez bien qu'il veut se servir de l'Éternel pour un dessein qu'il a. N'est-ce pas? On vient de lui demander quelque chose. Bon, il voudrait répondre à Balak parce qu'il aime bien l'argent. Ah, il aime beaucoup l'argent. Enfin, il voudrait bien faire ce que Balak lui demande. C'est un roi qui est riche. Hein? Alors, il consulte l'Éternel, il essaie de s'entendre à l'Éternel. Vous voyez dans quel esprit? Pour se servir de l'Éternel, mais jamais dans l'esprit de servir. Tandis que les prophètes d'Israël servent l'Éternel. Ils ne viennent pas vers l'Éternel pour se servir, ils servent. Et je dirais des ministères maintenant, que les ministères ne sont pas là pour se servir, mais pour servir l'Éternel auprès des autres âmes. Un ministère, c'est cela. Il sert, c'est pas pour lui. C'est pas pour lui. Le Seigneur a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Et ses disciples et ceux qui ont ministère sont ainsi, ils ne sont pas là pour se servir. Nous ne sommes pas là au milieu des autres, de nos frères, nos sœurs, pour les utiliser à notre avantage, à nous. Vous ferez remarquer, chers amis, que ici, à Perguillot, eh bien, vous demandons quelquefois les petits services quand vous voulez bien les rendre, spontanément, mais on vous en demande très peu. Et en tout cas, vous pouvez voir que moi, je ne vous demande rien. Rien. Et j'ai toujours pris ce pli de ne jamais rien demander à mes frères et mes sœurs, même quand j'avais besoin, n'est-ce pas? Je ne demande pas, parce qu'on n'est pas venu dans l'Église pour se servir, mais pour servir. Et alors, Balak, je passe l'épisode de l'ânesse qui parle, n'est-ce pas? Bon, je ne veux pas raconter toute l'histoire de Balaam. Mais disons que quand Balaam arrive là, devant le peuple, là, en Madian, alors, il essaie plusieurs fois, il ne peut pas le maudire. Et chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour le bénir. Voilà, n'est-ce pas, que l'Éternel change ses paroles, il prononce alors là, évidemment, des prophéties, parce que c'est Dieu qui le prend comme une machine, n'est-ce pas, en quelque sorte, n'est-ce pas, et l'oblige à parler d'une certaine manière. Alors il bénit le peuple et alors il en est même navré. Il dit à Balak, lui fait des reproches. Je t'ai appelé pour maudire et puis tu bénis. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors il lui dit, bah, écoute, je peux pas. Alors après, n'est-ce pas, comme les tentatives ont été infructueuses, alors il prend Balak à part et puis il lui dit, écoute, je vais te donner un petit conseil. Parce que tout de même, n'est-ce pas, il y avait une petite rémunération, il y tenait sa petite rémunération, et il n'avait pas pu faire ce que Balak lui avait demandé, alors il fallait bien qu'il l'obtienne autrement. Alors, il lui dit, écoute, tu vas faire une chose. Ah, il faut être malin, il faut être habile. Et vous savez que le séducteur est le malin, n'est-ce pas? Alors, tu vas faire une chose. On ne peut pas maudire, c'est pas possible. Le peuple de l'Éternel, qu'est-ce que tu veux? Ce Dieu ne se laisse pas circonvenir, n'est-ce pas? Il n'y a rien à faire. Rien à faire, on ne peut pas. Bon, il est fort, il est puissant, que veux-tu que j'y fasse? Je ne peux pas. Alors, écoute, tu vas faire une chose. Tu vas agir en sorte que ce sera leur Dieu lui-même, Jéhovah, l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui va les punir eux-mêmes, qui va les châtier, qui va faire peser sur eux, n'est-ce pas, une malédiction. Tu vas voir. On va amener leur Dieu à les maudire lui-même, à les châtier lui-même, n'est-ce pas? Tu vas voir cela. Alors, pour faire ça, écoute, c'est bien simple. Tu disposes dans ton peuple de pas mal de filles, là, ça, de belles filles, tu vas les habiller bien comme il faut, n'est-ce pas? Et puis, tu vas les faire danser, tout ça. Puis, tu vas appeler un peu les fils de ce peuple d'Israël. Tu vas les appeler, tu les appelles, tu les amènes. Un petit peu au contact, là. Ils vont s'amuser, ils vont danser, n'est-ce pas, la jeunesse, voyez-vous, c'est très bien. Ils vont danser ensemble. Et puis, quand ce sera fait, les filles qui auront séduit déjà, n'est-ce pas, tous ces garçons venus d'Israël, alors ces filles-là, tu leur diras, n'est-ce pas, que le moment venu, elles leur suggèrent de venir à la fête de tes dieux à toi, Madian, Balak, de tes dieux. Tu vas faire des fêtes pour tes dieux et tu vas les amener à tes dieux. Là, C'est ce qu'on appelle, dans la loi du peuple d'Israël, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie, n'est-ce pas? Alors, ils vont être livrés à l'idolâtrie et leur Dieu va être obligé de les châtier. Tu vas avoir, par cette voie détournée, tu vois, n'est-ce pas? Tu vas avoir tout de même ce que tu désires, n'est-ce pas? Bon, alors donne-moi quand même un petit récompense, n'est-ce pas? Et alors, c'est ce qui a été, dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas, retenu, n'est-ce pas, et plusieurs fois, il y a plusieurs passages qui en parlent, de ce Balaam, de la voix de Balaam, et c'est resté comme un type, cette voix de Balaam, n'est-ce pas, et qui, ne pouvant pas agir de front directement contre le peuple de Dieu, on ne peut pas. Si le peuple de Dieu reste fidèle, on ne peut rien contre lui. Mais on peut quelque chose par un biais, par la séduction, n'est-ce pas? Alors, faire venir la séduction, n'est-ce pas? Et puis l'amener à l'idolâtrie, une forme d'idolâtrie. Alors son Dieu est obligé de... Sa colère s'allume et il est obligé de sanctionner. Et c'est ce qui est arrivé en Madian, n'est-ce pas? Où des quantités d'Israélites ont été frappés. Et ont été frappés par Dieu. Ça n'a pas empêché le peuple de continuer sa voie et de servir Dieu. Mais quand même, n'est-ce pas, il a été durement frappé parce qu'il s'est livré dans... c'est l'affaire qu'on appelle de Baal Péor, n'est-ce pas, en Madian. Là, il s'est livré à l'idolâtrie. Il est allé aux fêtes des dieux de Madian, n'est-ce pas. Et même, alors, ils ont pris des filles après... Et ils les ont ramenés, des filles de Madian, ils les ont ramenés dans le peuple, et avec ces filles, ils ramenaient évidemment l'idolâtrie, n'est-ce pas? Et alors l'idolâtrie risquait de s'étendre dans le peuple d'Israël. Dieu a réagi d'une façon catégorique, naturellement. Vous voyez, n'est-ce pas, comment agit la séduction? L'affaire de Baal, Péor, Balaam, qui met une pierre d'achoppement. Mettre une pierre d'achoppement. Pierre d'achoppement. C'était la séduction par les filles, n'est-ce pas, par les filles, pour les amener au faux Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas, toujours comme ça, n'est-ce pas, la séduction, ça c'est ces filles toutes gentilles, toutes aimables, toutes fraîches, n'est-ce pas, oui, alors la séduction pour aller au faux Dieu. Méfions-nous, nous, de la séduction. Ce ne sera pas toujours sous la forme de visage féminin qu'elle se présentera, mais méfions-nous de la séduction. Venez, venez, faisons des rencontres ensemble, mais venez, venez. Ah, chers amis, je suis certain qu'il y a là une séduction en ce moment qui nous guette, qui cherche à nous atteindre. Chers amis, ne soyons pas faibles, ne soyons pas aveugles. Mais prenons bien garde à cela. Elle est dangereuse. Elle est dangereuse. Qu'est-ce que c'est que la superstition? Eh bien, la superstition, il faut le savoir, parce qu'il y en a énormément autour de nous. La superstition, c'est une déviation. Une déviation du sentiment religieux. Cette déviation portant à donner un caractère magique, une valeur sacrée à certaines pratiques qui en réalité ne sont rien du tout, sont vaines, sont absolument vaines. C'est aussi une croyance sans aucun fondement. Une croyance qui n'a pas de fondement, ça confine à la superstition. Mais la superstition par elle-même, c'est cette déviation du sentiment religieux. C'est un sentiment religieux dévié, n'est-ce pas? Et qui, alors, conduit vers, n'est-ce pas, la recherche d'une action magique, derrière un rythme, par un rite, par exemple, n'est-ce pas, le sacrement est exactement cela. L'idée de sacrement est faux, c'est une déviation du sentiment religieux. L'idée de sacrement contient justement, n'est-ce pas, cette recherche de l'action magique, l'opus operatum. Hein? Et cet opus operatum que l'on connaît bien dans qui est la base, l'essence même du sacrement, n'est autre chose qu'une superstition, une déviation du sentiment religieux. Eh bien, allez demander au Seigneur si la superstition lui plaît, n'est-ce pas? Et vous verrez, n'est-ce pas, quelle réponse il vous donnera. Mais déjà, sa parole vous donne la réponse. Et puis, nous avons toutes sortes de séductions dont je pourrais encore parler dans l'écriture, mais je veux m'arrêter là. Il y a la Jézabel aussi, n'est-ce pas, dans le chapitre 2, ça c'est Jézabel, c'est à Thyatire que ça se passe. Jézabel, c'est une femme qui se dit prophétesse. C'est une séduction alors différente de celle de Balaam. C'est un faux enseignement qui pénètre dans l'Église et qui s'accompagne d'impudicité et d'idolâtrie. Mais attention, l'impudicité est aussi l'image de l'infidélité à Dieu dans les Écritures. Impudicité veut souvent dire tout simplement l'infidélité à Dieu. Et la sanction du Seigneur est catégorique, là, dans cette quatrième lettre. Eh bien, s'ils ne se repentent pas, s'ils ne changent pas bientôt, je ferai mourir de mort ces enfants. C'est une lettre à l'Église. C'est pas au peuple d'Israël, c'est à l'Église. C'est le Seigneur parlant à l'Église. Je ferai mourir de mort ses enfants. Enfin, pour terminer, puisque nous voulons abandonner ce sujet maintenant, on en reprendra d'autres samedi, nous pouvons dire que il y a aussi quelque chose que nous avons à craindre dans notre propre vie, à nous, sans que l'extérieur même agisse sur nous, je veux dire sans que des faux prophètes, des séducteurs, n'est-ce pas, viennent nous atteindre. N'oublions pas que « idole » signifie, selon le grec, signifie « image ». Et il y a des images qui ne sont pas matérialisées, mais des images qui sont dans la pensée. Les images que sont nos pensées, nos rêves, auxquels on peut se complaire, nos attachements aux choses de la terre, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, nos attachements aux choses qui sont sur la terre, tout cela, ce sont des idoles. Que ce soit des choses réelles ou que ce soit des choses irréelles, hein, qui se présentent constamment à notre esprit, eh bien ces choses voilent notre regard sur le Christ. Elle voile notre regard sur le Christ. Nos pensées, c'est une sorte souvent de cinéma. Il y a des gens qui pensent trop et qui pensent mal. C'est une sorte de cinéma, une succession d'images, d'esprits, qui se substituent à l'esprit d'attente et d'adoration de Dieu. Quand, n'est-ce pas, on se réjouit en pensée de quelque chose qu'on va faire, de quelque chose qu'on a, qu'on possède. Quand on rêve à quelque chose que l'on désire, etc., etc., n'est-ce pas, qu'on laisse aller même son imagination, etc., on est coupé de l'adoration du vrai Dieu, mais coupé, n'est-ce pas, de l'esprit d'attente. Et l'on ne peut pas dire que l'on aime son Dieu de toute sa force, de toute sa pensée, de toute son âme, n'est-ce pas? Non, pas du tout, ce n'est pas vrai. Et là, l'on est tombé dans une idolâtrie individuelle, personnelle, mais qui n'en est pas moins redoutable. Il faut aussi viser les satisfactions de la terre, les bénédictions de Dieu elles-mêmes. Peuvent être devenir, ça dépend de nous, devenir des séductions et prendre en nous une telle place qu'elle voile elle aussi l'espérance et l'attente du retour du Seigneur, les satisfactions de la terre. Le Seigneur en a parlé d'un mot, mammon. Vous ne pouvez pas avoir deux maîtres, mammon et Dieu, ce n'est pas possible. Et mammon, ce n'est pas le Dieu de l'argent. Ce n'est pas le d'argent, des gens peuvent avoir des moyens, de grands moyens, être riches, et il n'y a pas de raison qu'ils deviennent pauvres s'ils sont riches, n'est-ce pas? Ils pourront bien sûr servir l'Église par leurs biens. Il y avait autour du Seigneur Jésus des femmes qui avaient de grands biens, s'il vous plaît, de grands biens, et qui servaient le Seigneur Jésus par leurs grands biens, et il n'a pas été question pour elles, n'est-ce pas, de donner tout cela, parce que la plupart du temps, ce serait un gaspillage ou une dilapidation, n'est-ce pas, mais ces biens peuvent être certes utiles à l'Église, mais en tout cas, il ne faut pas, n'est-ce pas, qu'ils soient une idole. Mais mammon, ce n'est pas cela seulement. Mammon, c'est essentiellement le bien-être matériel. C'est le bien-être matériel. Et il peut y avoir un mammon dans une maison tout à fait modeste. Une maison modeste. J'ai vu des braves femmes, n'est-ce pas, par exemple, installées dans leur petite salle à manger, petite cuisine, un petit appartement bien arrangé, là, n'est-ce pas, oui, où elles ont vécu longtemps, ben, ça se comprend, évidemment, n'est-ce pas, eh bien, elles en parlaient, il n'aurait pas fallu déranger quelque chose, n'est-ce pas, elles entretenaient ça avec un certain amour, n'est-ce pas, eh bien, elles arrivaient à avoir un mammon, là. Un mammon. Et qui les aurait délogés de cela? Qui leur aurait fait penser à autre chose qu'à cela? Vous voyez, n'est-ce pas qu'il est facile, vraiment facile, d'être séduit par même les choses que Dieu nous donne en bénédiction. S'il nous donne des choses en bénédiction, eh bien, remercions le Seigneur. Mais ne faisons pas du Seigneur toujours, n'est-ce pas, uniquement celui à qui nous disons « Merci Seigneur, tu m'as donné ça. Merci Seigneur, gloire à toi Seigneur. » Oui, parce qu'on pense à soi. Non, c'est pas ça l'adoration. Ah, il peut y avoir des gens qui disent tout le temps « Alléluia, oui, merci Seigneur, gloire à toi. Oh Seigneur, tu m'as comblé, merci. » Parce qu'elles se réjouissent de ce qu'elles ont reçu du Seigneur et qu'elles voient comme des bénédictions. C'est bien de le voir comme des bénédictions. Mais en réalité, elles voient surtout le fait de ces bénédictions, elles voient surtout ce qu'elles en ont retiré comme bien-être, comme satisfaction personnelle. Et c'est la joie de ces satisfactions-là, n'est-ce pas, qui leur fait dire, parce qu'elles ne veulent pas rompre, évidemment, n'est-ce pas, leur fait dire cela. Mais quant à servir vraiment Dieu, il n'en est pas question. Quant à l'adorer vraiment du fond de son cœur, il n'en est pas non plus question. Alors là, il y a idolâtrie. Il y a idolâtrie. Vous voyez, n'est-ce pas, comme la chose est subtile et combien nous avons besoin de nous examiner chacun, n'est-ce pas, nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi, dit l'Écriture, et si nous ne sommes pas tombés dans quelque ornière, dans quelque fondrière, et si nous ne sommes pas, nous, en train d'adorer quelque chose, tout en disant « Alléluia, Seigneur, merci, Seigneur, gloire à toi, tu m'as comblé, merci, Seigneur. » C'est pas ça, l'adoration du vrai Dieu. C'est du fond de l'âme, et c'est quelque chose qui dure. C'est de vivre dans un sentiment d'attente, dans une... être véritablement toujours, n'est-ce pas, cet encens, prier sans cesse, cet encens qui monte vers Dieu, et d'avoir toute son âme là-haut, toute son affection dans les choses d'en haut. C'est cela que l'Écriture nous demande, et c'est cela qui est bon pour nous tous. Amen.